entrevues. Radio Shalom Bourgogne, 97.1 FM.
Chers auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, je suis avec monsieur François-Xavier Dugour, vice-président délégué du conseil départemental et que je reçois en tant que président d'Orvitis. Et nous allons parler d'un sujet passionnant, important, qui est celui du maintien à domicile des seniors, qu'ils soient autonomes ou en perte d'autonomie. Bonjour monsieur Dugour.
Bonjour.
Orvitis, je crois, est au cœur de l'adaptation du logement social aux populations, et notamment au vieillissement de la population suisse, à une loi, je crois, qui porte notamment ce terme. Peut-être nous présenter un petit peu votre approche de cette problématique avant de venir dans le concret.
Eh bien, effectivement, c'est vrai qu'en tant que bailleur social, nous sommes au cœur, comme on l'a dit, des évolutions de la société, et en particulier du vieillissement de la population. Il faut savoir que, par exemple, en 2050, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Donc, il faut trouver des solutions d'habitat et des solutions d'habitat aussi qui permettent de favoriser au maximum le maintien à domicile. Et vous le savez, nous sommes reliés au département de la Côte d'Or qui a fait du maintien à domicile une des priorités. Parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on peut favoriser le fait qu'une personne âgée ou un couple de personnes âgées peut rester près de son environnement, près de ses commerces, près de ses amis, c'est l'idéal. Et rester chez lui, c'est l'idéal. Mais il arrive un moment où ce n'est plus possible. Si ce n'est plus possible, eh bien, les solutions qui existaient par le passé, c'était uniquement les EHPAD, les maisons de retraite. Aujourd'hui, on travaille, je vous en parlais, sur des formules un peu intermédiaires et des résidences-services, y compris dans le logement social. Sur le maintien à domicile, un petit mot quand même de la politique du département. Nous avons donc le département aide l'aménagement d'un certain nombre d'appartements pour les personnes qui répondent à un certain nombre de critères sociaux et de dépendance. Hein. Et nous avons par exemple des gérontologues qui interviennent dans les maisons ou les appartements pour aider la personne et la conseiller sur les aménagements pour qu'elle reste le plus longtemps possible chez elle. Mais ce n'est pas toujours facile, donc il faut avoir des solutions extérieures.
Alors, quels sont un petit peu les... Je crois que vous avez un label.
Oui.
Vous êtes rentré en label. Expliquez-nous pourquoi et quel intérêt ça a pour Alors, mettre en place votre politique.
C'est une initiative qu'on a prise avant, effectivement, la loi sur l'habitat des personnes âgées. Hein. Et donc, on a un peu anticipé les choses parce qu'on s'est dit qu'il fallait effectivement trouver une formule intermédiaire. Et c'est les résidences Serenitis, alors, qui reposent sur un certain nombre de principes. Premièrement, ce sont des petits collectifs, c'est-à-dire 20, 25 logements, 30 logements maximum. Il ne s'agit pas de faire des grandes tours. C'est des choses qui sont très à taille humaine, avec des logements qui, évidemment, ont le maximum de confort, mais de confort, d'accessibilité, c'est le minimum de services. Hein. Évidemment, accessible, ascenseur s'il y a des étages, et puis rampe si nécessaire, et que les logements soient complètement équipés pour accueillir la personne âgée. C'est évidemment le premier point. Deuxièmement, une attention toute particulière à la tranquillité et la sécurité des personnes âgées dans ces établissements, dans ces résidences, avec des systèmes d'interphonie, de cheminement, d'éclairage qui permettent que la personne se sente vraiment bien et en sécurité chez elle. Troisièmement, des résidences qu'on appelle aussi des résidences du quart d'heure. C'est-à-dire que la personne âgée qui est dans une résidence Serenitis, à un quart d'heure, elle doit trouver de son logement, elle doit trouver les services publics, la mairie, les transports en commun et les commerces. En fait, en réalité, quand on va dans nos établissements, c'est plutôt à 5 minutes parce que ces résidences sont vraiment travaillées étroitement avec les communes. Donc, nous choisissons des lieux centraux, à proximité donc des services publics et en travaillant étroitement avec les communes. Donc le troisième point, c'est la résidence du quart d'heure. Et le quatrième élément, et ça c'est fondamental, c'est l'aspect humain. Et on a recréé un petit peu les concierges, mais sous une autre forme. Ouais. Nous appelons cette fonction des gestionnaires de résidence. Ce sont des personnes qui assurent un peu l'entretien évidemment du bâtiment, les petites réparations, mais qui surtout contribuent au lien humain dans ces résidences parce qu'elles ont beau objectif de répondre aussi à l'isolement. Et la solitude des personnes âgées. Donc, le gestionnaire de résidence, eh bien, il va aller toquer à la porte régulièrement pour voir si la personne âgée qui n'a pas ouvert ses volets, s'il n'y a pas un petit problème. Donc, vous voyez, elle assure le lien humain. Elle assure le lien humain également avec les familles. Parce que si la famille n'a pas de nouvelles pendant 3 ou 4 jours de son papa, sa maman, qui est dans notre résidence, elle peut appeler notre gestionnaire de résidence. Qui assure également l'animation. C'est-à-dire que l'idée, c'est il y a une salle commune dans ces
d'accord.
résidences Sérénitis.
C'était ma question, d'accord, j'ai déposé.
Voilà, il y a une salle commune qui permet aux résidents, soit de manière spontanée, soit de manière organisée, eh bien, de faire des parties de belote, de faire des jeux, de faire de la déco. Donc, c'est une salle qui est animée, effectivement, par le gestionnaire de résidence. Et par ailleurs, ces résidences sont équipées d'équipements numériques, et en particulier des tablettes, enfin des grandes tablettes, j'ai perdu le nom exact, des bornes interactives qui permettent d'avoir des informations sur le bâtiment, s'il y a une coupure d'eau, s'il y a l'ascenseur qui va être réparé, il y a des informations sur la vie du bâtiment, mais au-delà de ça, il y a des informations que chacun peut passer sur s'il propose d'aller faire une promenade dans les vignes dans 2 jours ou d'aller une dégustation de...
Oui, une activité avec le CCS voilà. du coin.
Voilà, ou une association.
La commune
peut mettre des informations sur ces bornes interactives.
Oui, faites en sorte que les gens s'ouvrent aussi sur la cité. Hein, puisque vous avez parlé de lieu central.
Complètement.
Hein, pour qu'ils sentent la vie de la cité. Quoi.
C'est essentiel. Mmh. C'est essentiel. C'est que la vie communale et la vie des associations de la commune, eh bien, les résidents en profitent au maximum pour créer du lien, recréer du lien. Il y a aussi souvent parfois des jardins partagés dans ces résidences. Et le gestionnaire de résidence, il anime un peu tout cela. Et on est même allé au-delà parce que cette formule des résidences-services rencontre un vrai succès. Il y a une demande importante. On a commencé par 2 ou 3. Maintenant, on en a une quinzaine en service sur l'ensemble du territoire, à la fois à Dijon, mais aussi à l'extérieur. Et la demande, on en a encore un certain nombre dans les tuyaux. On est même allé, on a créé un club Sérénitis. C'est-à-dire que des résidents de plusieurs résidences situées dans différents points du département organisent des événements en commun. Et on a notamment l'année dernière, on a mis au point des senioriades, un peu sur le modèle des Jeux Olympiques, mais entre résidents et dans un lieu commun, eh bien, il y a eu des petites épreuves sportives avec des résidents venant de plusieurs résidences Sérénitis. Donc on essaie au maximum de recréer du lien et de lutter contre la solitude de l'isolement.
Mmh. Alors, ça me fait penser aux résidences sociales qui existent dans le champ social, qui avaient créé un métier qui s'appelait d'ailleurs agent de gestion locative. Et on voit la proximité, mais qui servait à des gens plutôt en difficulté dans leur parcours, quel que soit leur âge. Quoi.
Oui.
Mais voilà, c'est un réseau qui s'appelle la FAPIL qui gérait ça sur le plan national. Donc là, les gens sont relativement autonomes, comme vous en parlez,
oui.
Mais il y a aussi des gens, vous faites aussi un travail pour des gens qui seraient en perte d'autonomie. Et ça, c'est intéressant de...
Alors,
qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, ce n'est pas dans les résidences Sérénitis.
C'est pas là, d'accord.
Les résidences Sérénitis ne sont pas médicalisées. Hein. La personne peut faire appel à ses médecins, mais de manière individuelle. Elles sont accessibles, enfin, il y a tous les équipements, mais ce n'est pas pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. C'est plutôt, effectivement, dans des établissements spécialisés du style maison de retraite. Hein, et Orvitis est propriétaire d'un certain nombre de maisons de retraite dans le département, mais que nous gérons avec des organismes spécialisés,
d'accord.
Comme la mutualité, par exemple. Hein. Et pour les personnes en perte d'autonomie, on a également, en lien avec des associations, notamment l'ADAPI, on a fait un travail sur plusieurs sites, en particulier à Selonget et à Fontaine-Française, où nous avons adapté des logements à des personnes en situation de handicap et parfois de handicap assez lourd, moteur. C'est-à-dire que c'est des logements qui sont dans un immeuble collectif lambda, mais que nous avons complètement adapté à la perte d'autonomie, et notamment avec des systèmes, par exemple, de rails qui permet à la personne d'être complètement autonome dans son logement, de pouvoir se lever de son lit, de pouvoir rejoindre sa chaise roulante et de pouvoir aller faire sa toilette de manière autonome, en lien avec une association, en lien avec l'ADAPI qui est spécialisée sur ces domaines.
Très bien, oui. Vous ne vous enfermez pas les gens dans votre logique, c'est quelque chose de toujours partenarial, d'articuler avec les autres et avec le territoire.
Quoi. Ah oui, oui, oui. Puis nous, on travaille avec les spécialistes aussi, enfin, et les associations qui, nous, on n'est pas, on fournit, entre guillemets, la structure et le bâtiment et l'habitat le plus adapté possible. Mais après, il y a des spécialistes d'accompagnement des personnes handicapées en particulier avec lesquelles nous travaillons.
Oui, la différence, c'est que par rapport à votre métier, vous anticipez sur les besoins. Et donc, ce que vous produisez, c'est par rapport à un ensemble de solutions avec un ensemble de partenaires.
Oui, et
c'est
on conçoit, exactement, et on conçoit ces solutions d'habitat avec ces partenaires. C'est ça l'intérêt.
Alors, sur le plan financier, parce que je pense une question qui intéresse les auditeurs, c'est est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Enfin, alors, comment ça se passe concrètement?
Alors, la particularité de nos résidences Sérénitis, c'est ce qui fait la différence avec des résidences services à l'extérieur, c'est que nous, il faut que ce sont des personnes qui sont accessibles au logement social. C'est du logement social.
D'accord.
Et ça veut dire que, alors, il faut savoir que 70% de la population peut accéder au logement social. Mais en clair, les loyers sont extrêmement modérés, enfin, sont modérés, puisque la moyenne, c'est en moyenne, hein, dans nos résidences Sérénitis, c'est 375 euros de loyer mensuel.
Pour une personne.
Pour une personne.
D'accord.
Hors charge, qui sont relativement modestes. Donc, vous voyez, c'est du logement à loyer modéré, qui est accessible aux personnes qui répondent aux critères du logement social.
Donc, ce qui veut dire que derrière, pour rénover, parce que c'est souvent de la rénovation, si j'ai bien compris, d'immeubles existants, c'est
oui.
ça?
Oui. Ou des constructions neuves parfois.
Parfois, d'accord.
Il y a plusieurs hypothèses.
Ça veut dire qu'il y a un ensemble de partenaires financiers, qu'il y a une politique publique, enfin, ça s'inscrit quand même dans un ensemble.
Oui.
Qui va se développer, se proroger ou,
Alors,
qu'est-ce qu'il en est? Parce que c'est, quand on regarde ça comme ça, on a envie de dire pourquoi on ne multiplie pas ça partout.
Ben parce qu'il faut des fonds pour le faire, parce que effectivement, les aides publiques sont réduites. Au niveau national, c'est le cas. Il y a des aides du département. Heureusement, nous, en Côte d'Or, on a un conseil départemental qui est très actif sur ce sujet. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faut l'essentiel du financement, c'est quand même nos fonds propres. C'est les fonds propres du bailleur social qui, grâce au loyer, eh bien, comme il ne fait pas de bénéfices, réinvestit ses produits, ses chiffres d'affaires liés au loyer dans la construction ou la rénovation de ces établissements.
Ce qui veut dire qu'il ne faut pas trop d'impayés, alors.
Parfois
un vrai sujet.
Oui. Eh ben, nous sommes évidemment très vigilants sur la question des impayés. Hein. On a un taux de recouvrement qui est important chez nous, hein, qui est quasiment que de 97%, parce que, comme je vous le disais par ailleurs, c'est qu'on fait tout un travail social en amont pour éviter que les personnes soient dans une situation difficile. Et en lien avec le département, on accompagne les personnes qui sont dans les situations les plus fragiles.
Oui, avec une réactivité en plus organisée.
Oui, parce qu'on est en proximité.
En tout cas, vous, en termes de projet, par rapport à Sérénitis ou développement, parce que qualitativement, il y aura peut-être encore des évolutions avec l'intelligence artificielle, notamment qui va rentrer dans la vie de tout le monde, vous êtes toujours dans du projet, on est bien d'accord.
Alors complètement, on est complètement dans le projet, à tel point que ce modèle d'habitat, il fait référence aujourd'hui au niveau national, et un certain nombre de départements nous regardent, mais au plan national, il est question peut-être que notre résidence puisse avoir un label national, mais on a déjà commencé au niveau local, c'est-à-dire que Orvitis est aujourd'hui intégré dans une société de coordination. On travaille étroitement avec des bailleurs sociaux de la région, en particulier de Lyon, de la Haute-Marne, de Dole, Grand Dole Habitat. Et le modèle résidence Sérénitis, aujourd'hui, se reproduit dans des départements limitrophes avec lesquels nous travaillons étroitement.
Très bien. Et avec une vigilance qui fait qu'en fonction des évolutions de la médecine, de l'IA, etc., vous serez évidemment, vous avez une capacité d'adaptation au changement,
oui.
Y compris pour les années qui viennent.
Complètement.
Ce n'est pas un modèle en soi. Enfin,
Non, ce n'est pas figé. Et l'innovation, pour nous, elle est fondamentale. Elle passe aussi par l'évaluation, hein, parce qu'on peut s'améliorer maintenant dans les dispositifs existants. Et puis, à chaque fois qu'il y a une innovation qui nous semble intéressante pour la personne âgée, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le gadget. Il faut que ce soit vraiment efficace. Et avec le département, on a fait tout un travail pour recenser un petit peu tous les dispositifs, parce qu'il y en a très nombreux, publics et privés, qui aident la personne âgée à rester le plus longtemps possible à domicile. Eh bien, on a testé, et certaines innovations apparaissent un peu comme des gadgets coûteux, qui ne sont pas forcément efficaces. Donc, on essaie de se concentrer sur ce qui est le plus important pour la personne âgée, ce qu'elle nous dit être sa priorité.
Alors, nous, on a eu la chance de recevoir le réseau Reseda, ici autour de la table, qui est, je crois, un acteur important et vigilant.
Complètement.
Et qui s'intéresse beaucoup aux questions que vous avez développer tout de suite. Comment voulez-vous conclure sur cette question de l'évolution de votre travail avec le vieillissement de la population ?
Alors, ce que je ne vous ai pas dit, et c'est une autre dimension, c'est qu'on travaille aussi de manière sur l'intergénération. C'est-à-dire qu'on travaille aussi pour relier ces résidences personnes âgées à des résidences étudiants. Et par exemple, à Dijon, on est en train de rénover le foyer des jeunes travailleuses qui se trouve boulevard de la Trémouille. Et à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, cette résidence va ouvrir et il y aura 23 logements de résidence Serenitis, labellisée Serenitis, mais également 23 logements pour des étudiants sous un modèle
dans le même immeuble.
Dans le même immeuble, avec des parties séparées, hein, et mais des parties communes. Et l'idée, c'est de travailler également sur l'intergénération et les liens qu'il peut y avoir entre les personnes âgées et les jeunes apprentis ou étudiants qui seront dans ces résidences. Et ça, cette dimension intergénérationnelle, ça, c'est des sujets sur lesquels on peut progresser encore pour demain.
C'est un sujet qui nous passionne, parce qu'on a rencontré des personnes âgées qui vont contacter des adolescents pour parler de leur parcours de vie. Les adolescents qui les prennent pour des vieux cons, si je peux me permettre, découvrent des parcours simples mais extraordinaires.
Et c'est fabuleux.
Et qui communiquent des choses tellement importantes pour comprendre la vie et que les jeunes se projettent un petit peu dans des projets positifs.
Et c'est bénéfique pour les deux. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension des générations différentes et une meilleure connaissance et de l'amour qui peut se diffuser par cet intermédiaire. C'est important aujourd'hui dans notre société qui, par ailleurs, peut être de plus en plus fracturé.
Alors, nous étions donc avec François-Xavier Dugour, vice-président délégué du conseil départemental, que je recevais en tant que président d'Orvitis, et qui vient de nous présenter justement la politique d'Orvitis en matière de logement social dans le champ du vieillissement, et en particulier avec les résidences Serenitis. Et nous aurons l'occasion de suivre ce projet, qui est un projet exemplaire, intéressant, concret, et qui se développe de plus en plus, et qui a peut-être une vocation national, si je l'ai bien compris.
Merci, merci à vous.
À très bientôt, merci beaucoup.
À bientôt.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.